CFM Villefranche, le mag.
Vous venez de nous rejoindre suite de ce mag Aveyron Santé Bien-être, Florette Pâquerette, comme tous les lundis. Et pour cette deuxième partie, comme annoncé, c'est Didier Vallette en studio. Didier Vallette, bonjour Didier.
Bonjour David.
Sommité fleurie de la biodynamie et grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales. Énormément de retours sur votre intervention d'il y a deux semaines maintenant, sur intitulé. On peut retrouver l'enregistrement podcast sur le site CFM Radio. Mieux comprendre la biodynamie. On était en plein cosmos. C'est très agréable de vous recevoir et merci de partager vos connaissances avec nous tous les lundis ou un lundi sur deux sur notre antenne.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que quelquefois, ça, on peut avoir pensé, je vais un peu dans tous les sens, mais il y a quand même une ligne directrice. Et on est obligé, on ne peut pas asséner des choses comme ça, qu'on prendrait pour des vérités à prendre comme ça. C'est de la foi à ce moment-là. Donc on est toujours obligé d'essayer de faire prendre conscience un petit peu de différentes choses. Et c'est le principe même de l'agriculture biodynamique, rendre le paysan autonome dans sa pensée et ne pas dépendre de choses toutes faites. Qui, très souvent, ne marche pas dans le monde du vivant.
Vous êtes guidé par les astres, hein, on peut le dire, Didier Vallette, et possédé par le cosmos. Voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai cru comprendre que vous chahutiez l'ordre établi, en tout cas le mien.
Non. C'est pas vraiment du chahut, non. On va dans un ordre établi, c'est-à-dire on avait déjà parlé de trois plantes qu'on utilise pour vivifier les sols, et on avait annoncé depuis longtemps la quatrième qui est le chêne. Et donc, je voudrais quand même parler de l'arbre, parce que le chêne, ce n'est pas... Alors oui, ça appartient au monde végétal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est un animal. Ça ne se déplace pas à part dans des films comme Le Seigneur des Anneaux, par exemple, où il y a des arbres qui se promènent, les Ents. Mais normalement, quand même, un arbre reste en place. Il va se déplacer simplement grâce à ses graines. Et quelquefois des animaux qui sont obligés de manger les graines pour qu'elles puissent germer. Mais c'est quand même une plante avec la racine en bas, des feuilles, des fleurs, des fruits, comme toute plante. L'arbre, il a une particularité, quelque part, c'est qu'il fait du bois. Alors, qu'est-ce que le bois, justement? Parce que dans une plante ordinaire, une plante herbacée, même si elle est vivace, elle fait rarement du bois. Quelquefois, bon, on peut trouver un peu de bois tout en bas, comme dans des romarins, des sauges, où le bas de la tige devient boisé, mais l'arbre est quand même très différent. Avec des arbres comme les séquoias qui peuvent dépasser les 100 mètres de haut. Alors 100 mètres de haut, ça doit faire à peu près un immeuble de 30 étages quand même pour situer un petit peu la hauteur. L'arbre, il y a un arbre qui a dépassé les 100 mètres de haut. Alors je ne me rappelle plus exactement, ça devait être en Australie, mais il est mort en début du XXe siècle. Il faisait 120 mètres de haut. Et par contre, je ne me rappelle plus du tout la nature de cette arbre. Mais bon, voilà, c'est des végétaux qui ont une hauteur vraiment incroyable. On avait peut-être, au moment de la préhistoire, on avait du temps des dinosaures, là, on avait peut-être des plantes, des arbres qui poussaient plus haut que ça, parce qu'on était dans des dimensions de plantes vraiment phénoménales. Mais normalement, ce bois, il est là, quelque part, pour faire une structure. Parce qu'une plante, le roseau plie, le chêne ne seront pas normalement quand même... Donc la plante herbacée, elle est souple, mais l'arbre, il tient par rapport à la tempête quand il est pas malade, disons. Donc ce bois, quelque part, il est constitué de différentes parties. Alors, tous les gens qui utilisent un peu du bois pour la construction le savent. Il y a une partie... on va partir de l'extérieur, plutôt. À l'extérieur, il y a une écorce. Alors quand on regarde bien, même il y a une double écorce, parce qu'il y a une écorce vraiment extérieure qui est très minérale, dans laquelle il n'y a pas de vie, et une écorce intérieure. Quand vous grattez un petit peu, vous allez déjà enlever des parties qui ont l'air très, très sèches. Et dès qu'on arrive un petit peu plus vers l'intérieur du bois, là, vous avez une écorce qui est beaucoup plus souple, qui est vivante, duquel il va couler un peu de sève, par exemple. Mmh. En dessous l'écorce, il y a une partie de l'arbre qui s'appelle le cambium, qui là, il y a une circulation. C'est toute la sève. Oui, alors, il y a deux sortes de sève, hein, pour ceux qui connaissent un tout petit peu la botanique. Il y a la sève brute, c'est-à-dire ce qui monte des racines. Venant des racines, il y a des substances qui vont monter vers le haut de l'arbre. Ça, c'est la sève brute. Et cette sève brute va s'enrichir au niveau des feuilles, c'est-à-dire les feuilles, elles font de la photosynthèse grâce à la lumière du soleil. Elles vont prendre l'eau qui arrive dans la sève brute, l'eau qui vient du sol, et elles vont l'enrichir de carbone en prenant le gaz carbonique qu'il y a dans l'air. Et en faisant ça, elles font des molécules qui contiennent du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène.
Donc on est sur des allers-retours entre les racines et les feuilles.
Et voilà, on est sur des allers-retours. Donc la sève brute monte, au contact des feuilles, elle s'enrichit pour faire une sève élaborée qui va redescendre vers les racines, quelque part, et qui va laisser même des résidus dans le sol, et ainsi de suite. Donc on a un double, le yin et le yang, si on veut, double circulation d'une sève brute, puis d'une sève élaborée. La sève brute monte à l'intérieur de l'arbre, la sève élaborée redescend par l'intermédiaire du cambium, la partie végétale. Donc, voilà, faut savoir que l'arbre est constitué de ces différentes choses, sachant que le cœur de l'arbre va grossir petit à petit, c'est-à-dire que la partie vivante du cœur, tous les ans, elle laisse un cercle de bois qui va devenir du cœur, dans lequel... qui est le squelette de l'arbre, en fait. Quand l'arbre meurt, il ne reste plus que ce squelette. Toute la partie vivante de l'arbre, tout le cambium et la partie vivante du cœur disparaissent. Il ne reste plus que cette partie minérale, si on veut, du cœur. Donc, en fait, en biodynamie, Steiner disait une chose qui est... qui paraît mystérieuse quand on l'entend pour la première fois, qui dit « Un arbre, c'est une surélévation du sol ». Pour comprendre cette idée, il faut comprendre que donc, dans un sol, il y a une partie minérale, puis il y a une partie qui est la terre végétale, avec de l'humus, qui est une terre vivante, et ensuite il y a la couverture du sol, qui est constituée souvent d'herbe. Et ça, c'est analogue à ce qui se passe dans l'arbre, où il y a un cœur qui est minéral, puis une partie d'arbre vivant dans lequel circulent les substances, comme dans un sol végétalisé, un sol vivant, et puis il y a une écorce qui pourrait correspondre à la couverture du sol. Et quand on regarde bien un arbre, comment il pousse? Alors, une plante dans le sol, comment elle pousse? Il y a une graine, puis ça fait une tige, une fleur... et puis de nouveau des graines. Dans un arbre, qu'est-ce qui pousse? Vous avez des bourgeons sur un arbre. Un bourgeon, ça a une forme de graine, en fait. C'est quelque chose d'assez dur, un peu pointu, comme une graine. Mmh. Au printemps, ce bourgeon va pousser, va faire un rameau, qui souvent n'est pas encore boisé. Ce rameau va faire des feuilles, puis il va faire une fleur, et il va faire un fruit. Donc on est un petit peu... dans le même fonctionnement qu'une plante dans le sol et là, une brindille sur un arbre. Sachant que ce n'est plus vraiment une graine, c'est l'œil qui fait office de graine. Et là, je voudrais reprendre un petit peu aussi une autre donnée un peu scientifique. qui est tiré d'un livre qui s'appelle La botanique redécouverte. C'est Madame Aline Reynal-Roch qui a écrit ce livre. C'est une botaniste qui a écrit beaucoup de livres. Elle a été professeure au Muséum d'histoire naturelle à Paris, au Jardin des plantes. Elle est spécialiste des plantes du Sahel, des plantes tropicales et des plantes parasites aussi. Et dans ce livre, La botanique redécouverte, que je propose aux, aux auditeurs, c'est aux éditions Belin. Alors, il y a pas de, on n'a pas de caméra, donc je ne peux pas le montrer, mais c'est un livre pour les gens qui veulent découvrir la botanique. Alors, bien sûr, c'est scientifique, mais c'est écrit de manière très simple et on peut acquérir des connaissances quand même assez facilement.
La botanique pour tous, mais
c'est la botanique pour tous, oui. Mais ça s'appelle la botanique redécouverte. En fait.
Mais là, on n'est plus sur les arbres, hein. C'était
là, on parle de toutes les botaniques, mais pour en revenir aux arbres, elle parle beaucoup des arbres. Hein.
D'accord.
Si vous voulez savoir tout ce qui est au niveau cambium, cœur de l'arbre, et ainsi de suite, vous trouverez beaucoup d'indications dans ce livre. Et par contre, elle dit pour tout végétal, l'élément de base d'un végétal est constitué de trois choses. Une feuille, le bourgeon axillaire qu'il y a juste à côté de la feuille et un bout de tige. Et ces trois données, une feuille avec son bourgeon et une bout de tige, tout empilé, ça fait un végétal. C'est une reproduction à l'identique sans arrêt, quelque part. Sachant que le bouton axillaire qu'il y a, alors axillaire, ça veut dire qu'il est juste à la base de la petite tige qui tient la feuille. Vous avez une tige, vous avez la feuille, et vous avez un petit bourgeon qui est là. Ce bourgeon, il est constitué de cellules qui sont indifférenciées. C'est-à-dire, si vous le mettez, par exemple, dans la terre, il va refaire des racines. Il va faire des cellules de racines. C'est le principe du bouturage.
C'est le génie génétique de la plante est là, concentré
voilà.
Là.
C'est-à-dire que la plante, elle est capable de s'adapter. Alors, si ce bourgeon, il est à l'air, il va faire une feuille ou une fleur. S'il est dans le sol, il va faire une racine. Voilà, cette adaptation du végétal, quelque part. Donc, l'arbre, on pourrait dire que ce bourgeon, c'est un peu comme une graine donc, qui va pousser. Donc l'arbre est une surélévation du sol, dit Rudolf Steiner, et il propose souvent, en arboriculture, en viticulture, des choses comme ça, de considérer toute la partie charpentière de l'arbre comme si c'était du sol, et de le dynamiser comme le sol, et ainsi de suite. Voilà.
Un cassissier, c'est une plante, c'est quoi? C'est un arbuste, mais c'est une plante, c'est un cassissier.
Un cassissier,
Il y a du bois alors, aussi un petit peu. Hein. Pardon, Didier, j'ai toujours des...
Non, mais suivant les... Bon, je vais, pour affiner un petit peu, je vais parler d'une famille de plantes qui est les rosacées, plutôt que le cassis. Dans les rosacées, bon, comme je le dis, il y a la rose, bien sûr, mais il y a l'églantier, donc le rosier sauvage, et il y a des plantes, il y a d'autres plantes comme l'aigre-moine, le fraisier, qui est une rosacée, la reine des prés, l'aigre-moine, la chimie, il y a plein de plantes qui appartiennent à cette famille, il y a tous nos arbres fruitiers. Et entre les deux, donc il y a des plantes herbacées, qui ne font pas de bois du tout, et puis il y a les arbres qui font du bois, les pruniers, les cerisiers, les pommiers, les poiriers, toutes ces rosacées. Et puis, entre les deux, vous avez des arbrisseaux ou des plantes qui ont tendance à devenir un petit peu les arbrisseaux. Alors, on prend l'églantier, par exemple. Eh bien, l'églantier, il va faire du bois. Vous prenez le framboisier, il va faire aussi un petit peu de bois, quand même. Vous avez l'églantier va faire des branches qui vont retomber vers le sol pour se réenraciner, comme la ronce aussi qui fait partie de la même famille. Donc on est dans des zones entre les deux. Donc le cassis, pour répondre à la question du cassis, on n'est pas dans un arbre, c'est-à-dire on ne va pas faire un tronc. Il ne peut pas, il n'a pas la capacité de le faire, mais par contre, il fait du bois sous forme de touffe. quelque part sous forme de bouquet, comme le noisetier a plus tendance aussi à faire des bouquets qu'à faire un grand arbre qui va monter à 20 mètres de haut. Donc, vous avez comme ça, vous prenez l'aubépine aussi, l'aubépine qui est une rosacée, vous avez différentes variétés d'aubépine. Alors, il y en a qui arrivent à monter à 6 mètres de haut, et puis il y en a d'autres qui sont plus à pousser en buisson à 2-3 mètres de haut, quelque part, avec beaucoup de piquants, beaucoup d'épines. Donc, voilà, là, on ne peut pas non plus mettre dans des tiroirs. Il y a toutes les formes. Dans la nature, on a toutes les formes possibles. Et suivant les plantes, il y en a qui vont faire un peu de bois, il y en a qui vont en faire beaucoup, il y en a qui montent très haut, d'autres moins haut. Tout là est l'art de la botanique et de l'observation des plantes.
Qu'est-ce qu'un arbre aujourd'hui? Donc, je suis obligé d'intervenir, Didier, je vois le chrono qui tourne. Oui. Il y aurait encore beaucoup à dire, parce que la dernière fois, ou il y a deux semaines, en aparté, vous m'avez parlé aussi des astres et du cosmos et leur influence sur les arbres et la densité de l'arbre au final. Peut-être qu'on pourra en parler la dernière fois, parce que je trouvais que c'était passionnant.
On en reparlera.
S'il vous plaît.
Oui.
On peut même reculer encore un petit peu, je suis prêt à ça, à tous les sacrifices, à reculer l'écorce de chêne en préparation biodynamique pour continuer à prolonger cette intervention.
Je pense quand même que
soyons raisonnables.
Il faut être raisonnable, et on reparlera des rythmes et des arbres fruitiers peut-être un peu plus tard dans la saison, parce que les arbres fruitiers pour tous nos jardiniers, c'est important. Donc comment intervenir, quelles sont leurs relations avec le ciel, et ainsi de suite. Mais on le reprendra plutôt au printemps, je pense, cette partie-là.
Vous avez parlé de l'églantier, c'est celui-là qui fait des fruits ovales orange, ou
le gratte-cul,
en vitamine C.
Très riche en vitamine C, on peut en faire d'excellentes confitures.
Et cuit, il n'est plus urticant, hein, c'est ça le secret.
Oui, normalement, oui. Il y a pas de. C'est la graine. Hein. C'est à l'intérieur. Il y a les petites graines ont plein de petits poils qui vont faire que ça démange. Mais une fois que c'est cuit, il n'y a pas de problème.
Merci Didier.
C'est comme l'ortie. C'est comme l'ortie, une fois cuit, il pique pas.
Comme quoi, la nature est, encore une fois, il n'y a pas de mauvaises plantes. On a des plantes qui sont soit alimentaires, des plantes bio-indicatrices ou des plantes médicinales.
Oui, et puis bon, il y a des plantes qui sont toxiques à certaines doses et qu'il faut savoir utiliser aussi quelque part. Donc,
mais elles restent bio-indicatrices et qu'elles ne poussent pas au hasard.
Voilà,
elles ne
poussent pas au hasard, voilà.
Bon, ben voilà, on va arrêter là. Merci Didier Vallet, et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour l'écorce de chêne.
Dans deux semaines, David.
Merci.
CFM Villefranche, le mag.